Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici au Petit Théâtre du Quartz à Brest. Et derrière votre poste, c'est le dernier moment de cette semaine au cœur de laquelle se tenait l'expérience. Comme chaque vendredi, variation musicale thématique et personnelle en 6 temps. Aujourd'hui, elle est signée Fantasio, ça commence. Manqué de totalement rater l'avion en confondant les aéroports ce matin pour venir faire de la radio, car bien plus habitué aux voies souterraines qu'aux rendez-vous aériens, est une expérience en soi. Faire une émission depuis l'extrême ouest de la France quand on la fabrique banalement depuis Paris chaque jour est aussi une expérience en soi. Enregistrer une émission en public quand elle est habituellement en direct et en tout petit comité dans notre studio est une expérience en soi. Faire face à des regards et des corps en plus des oreilles à qui l'on s'adresse chaque jour est à chaque fois une expérience en soi, ainsi que tout ce qu'on ne sait pas encore et qui peut tout à fait arriver. Si la radio est une expérience quotidienne aux variables infinies, c'est à une multiplication des expériences que l'on s'adonne donc cet après-midi. Ravi d'être ici, enchanté Brest, vous écoutez France Culture et c'est l'heure des nouvelles vagues. À la fin de l'émission, les nouvelles vagues passent au singulier. Chaque jour, nous écoutons quelqu'un raconter un moment marqué par une émotion forte. Un moment de bascule comme on les désigne, l'exercice est délicat et chacun le conjugue à sa manière. Cette semaine, c'est Rachel Tanguy que nous avons rencontrée. Longtemps éducatrice spécialisée, elle exerce le métier de coordinatrice pédagogique au centre Sésame, dans le département du Val-d'Oise, pour des jeunes gens de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, elle évoque la création d'un spectacle avec eux autour de la Grande Guerre, son émotion à les voir sur scène et à voir le public bluffé. Les deux pieds sur scène et dans la grande histoire, c'est vers 16h45. En guise de premier son, pas d'écoute de l'émission de la veille, mais cette fois, ce sont des enfants qui écoutent ébahis ce qu'on leur présente comme de la musique expérimentale. On est en mars 1973 à la Maison de la Culture de Bourges. Des musiciens font part de leur recherche à un groupe de petites têtes bien faites. Il faut à peine tendre l'oreille et les vagues sont là.
La musique expérimentale, c'est une musique qui n'est plus composée selon les canons, les règles de la musique classique, selon la gamme des 12 sons. La musique électroacoustique, et plus particulièrement la musique qui se fait avec des manipulations sur magnétophone, prise de son avec un micro ou avec des synthétiseurs de son électronique, puis manipulation sur magnétophone, mixage et rediffusion à partir de haut-parleurs.
Qu'est-ce qu'on entend là ? Non, qu'est-ce qu'on entend là ?
La musique.
Qu'est-ce qu'on fait alors ?
On le baisse.
On le monte, c'est bien. Pour le faire écouter à tout le monde, hein ? Et puis là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? On entend la mer et on descend.
My daddy works the night shift. He lies in bed all day. He never looks in mirrors, and he avoids the sun's rays. But if you peel away the bandage,
C'est le premier choix d'une sélection musicale signée Fantasio. Il s'agit du titre My Daddy is a Vampire par The Meteors. Et on en saura davantage dans quelques secondes car Fantasio est avec nous pour commenter ses choix. Vous écoutez les Nouvelles Vagues sur France Culture, c'est le dernier moment d'une semaine thématique autour de l'expérience, une émission que nous avons la joie d'enregistrer à Brest dans le cadre du festival Longueur d'onde, Brest où nous fûmes accueillis tout à l'heure certes par une bonne averse de grêle mais aussi par des mouettes chantantes et ça, ça vaut son pesant de bonnes ondes. C'est le dernier moment donc d'une semaine qui interrogeait l'expérience et comme chaque vendredi, nous confions à quelqu'un le soin de décliner notre thème en six moments musicaux, c'est Fantasio qui s'y colle ce jour. Longtemps contrebasse accrochée dans le dos, sans d'abord en jouer, en guise de douce carapace pour les villes où il fallait bourlinguer, parfois sans le sou. À présent, si la contrebasse reste au cœur de l'histoire, elle s'entoure d'autres joueurs, d'autres instruments, d'autres voix, de textes jamais totalement fixés et d'un amour pour le hasard que partagent ceux dont l'improvisation, entre autres, est la cam. L'expérience est à chaque fois sur scène, bien sûr, pour le spectacle, mais c'est aussi dans plein d'autres endroits où la musique raccorde avec des rituels sociaux, rappelle ses bienfaits pour le corps et pour l'âme et sa propre façon de nous faire vivre ensemble. Vous promenez vos instruments et ce nom d'origine punk, au choix dans ces centres médicaux, dans des bars, dans des cabarets brestois, dans des théâtres, dans des rues, et quand tout ça veut bien être gravé, dans des studios pour fabriquer des disques. Bonjour et bienvenue.
Bonjour,
Fantasio.
Bienvenue.
Merci, c'est gentil de me souhaiter la bienvenue ici. Ici aussi. Lorsqu'on vous propose ce thème de l'expérience, à quoi est-ce que vous l'associez d'emblée?
Là je pensais au LSD. Mais c'est pas forcément la meilleure porte pour.
C'est une porte comme une autre. En même temps, si vous l'associez à la drogue, ça veut dire que ça a été une expérience importante.
Oui, enfin, mais je pense oui d'une part, mais pas forcément. Enfin, on peut parler de son expérience. Moi, ce qui me toucherait plus, c'est l'expérience qui appartient à tout le monde et à personne. Et c'est-à-dire, je pense qu'il révèle, par exemple, le LSD, mais en fait, le LSD, c'est une manière maladroite qu'ont les adultes de rechercher des états d'enfance. Et je pense que quand on est enfant, on passe son temps à avoir une grosse chose dans une petite chose, une petite chose dans une... Et on peut faire des allers-retours très vifs entre une miette de pain et le monde et par exemple la cervelle, le corps d'un autre ou la tête d'un autre.
Et quand
donc
on est
pour
adulte...
moi l'expérience c'est juste des allers-retours qui sont aplanis dès qu'on devient adulte. On aplanit les différences de température d'une pièce à l'autre ou l'effroyable crevasse qu'il y a entre le monde mental intérieur et le reste du réel. Et pour les enfants, c'est permanent ce changement ce changement de température permanent. Par exemple, une lumière passe dans une pièce, ça change tout. On n'a pas les mêmes pensées. Il se passe pas du tout la même chose dans le corps. Donc, pour les enfants, cette violence-là permanente, je pense qu'elle est très ils savent faire, quoi. Nous, on ne sait plus trop faire, ça, je crois.
Pourquoi vous diriez qu'on ne sait plus trop faire ?
Parce que je pense que tout ce que fabriquent les adultes, c'est d'essayer de retrouver maladroitement, de fabriquer par exemple des salles de spectacle ou des choses très éloignées du réel, même si elles semblent naturelles, je pense qu'elles ne le sont pas, pour retrouver des sensations fortes, en fait. Pour les sensations pour lesquelles on n'a rien besoin de faire quand on est enfant, quoi.
Et vous diriez que c'est à la recherche de ces crevasses-là de sensations que vous faites de la musique depuis des années ?
Pour moi, la musique, c'est un outil. C'est-à-dire, je ne me suis jamais dit que je voulais faire ça. Ce n'était pas du tout un désir. J'aurais préféré écrire, par exemple. Mais pour moi, la musique, c'était vraiment juste un truc de... Un outil de libération d'un étouffement intime, quoi. Voilà, c'était ça, en fait. Et après, ça m'a amené à savoir ce que c'était la musique pour le reste du monde, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de jouer avec des musiciens, avec d'autres gens. Donc de se mettre d'accord, de trouver des compromis, des contraintes dans une construction collective. Mais pour moi, au départ, c'était juste une quête médicale, quoi.
Der Frère.
Ouais.
On a commencé par entendre de la musique, puisque c'est ce qu'on va faire pendant toute l'heure cet après-midi. Le premier choix, c'est The Meteors. Tout à l'heure, quand on a essayé de goupiller quelques minutes avant le début de l'émission, un ordre, dans un premier temps, vous avez dit pas d'ordre et on va partir sur ce qui a marqué sur la feuille. Mm-hmm. Et dans un second temps, vous avez dit qu'il y avait quand même une sorte de logique chronologique et que, par exemple, Meteors, ça faisait partie des premières choses que vous aviez écoutées. Est-ce que vous pouvez nous représenter un peu qui ils sont ?
Ce que vous venez de dire, c'est que très souvent, les logiques se retrouvent dans des choses accidentelles, c'est-à-dire dans des événements d'une journée. Une logique s'organise qui nous dépasse. Donc c'est pour ça que je me disais, gardons n'importe quel ordre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que chronologiquement, c'est ce qui m'a rapproché de la musique, ça aurait pu être d'autres morceaux, mais c'était ce morceau-là d'un mouvement qui pourrait être qualifié de post-rock'n'roll en Angleterre, mais qui était plus compliqué que ça, parce que ça abordait vachement la psychiatrie, les paroles de sous couvert de parler de vampires ou trucs comme ça. Je m'en suis rendu compte plus tard que beaucoup des paroles des groupes phares anglais de cette époque-là, donc du début des années 80, évoquaient tout le temps le problème des maladies mentales. Ce qui n'était pas trop le cas dans le rock'n'roll des années 50, où le truc, c'était plutôt de parler de...
D'emballer des filles, quoi.
D'emballer des filles et pas trop de dire qu'on n'allait pas bien, quoi.
D'ailleurs, ils se disaient les seuls représentants du mouvement Psychobilly.
Psychobilly,
ouais. Voilà. Début des années 80, c'était
assez... Ça vient de psychose. Enfin, le mot Psychobilly vient de psychose, quoi, ouais. Après, il se trouve que j'ai eu, un intérêt pour... ce qu'on appelle aujourd'hui psychiatrie, mais pour les états mentaux, tout simplement, quoi.
Pourquoi est-ce que cette musique-là, elle se rattache au mot expérience pour vous ? C'est l'expérience d'états mentaux, justement, qu'on qualifie de malade, de différent ?
Oui, ça peut être ça, mais c'était clairement qu'à cette époque-là, à Paris, en tout cas... Le but de beaucoup de gens qui se retrouvaient à traîner dans la rue, au-delà du mouvement punk, c'était une quête. C'est des gens que des accidents de vie, de parcours ou des situations familiales mettaient tous dans la rue, et leur point commun, c'était d'essayer de refaire de la rue un appartement, c'est-à-dire de plus faire de différence entre la rue qui est déterminée, en tout cas en Europe moderne, comme un lieu de passage. Donc on y passe, mais on s'y arrête pas de plus en plus aujourd'hui. Et plus c'est vigipérate, plus on a l'impression qu'il faut juste y passer, surtout pas s'y arrêter. Il y a beaucoup de lois qui ont été mises en place pour ça. Mais déjà à cette époque-là, où il y avait moins de lois pour ça, c'était déjà un peu un lieu où il fallait passer et pas s'arrêter. Donc c'est des gens qui avaient en commun, je pense, le désir de d'effriter les murs entre vie sociale, vie publique, vie privée, ce genre de choses-là. Et donc de faire de Paris, par exemple, moi je me souviens que je le vivais comme un appartement. Pour moi, c'était un appartement, quoi. Pigalle, c'était les chiottes. Montparnasse, un salon.
La
chambre. Le 15e, une sorte de couloir sans fin qui mène à rien, et etc.
La chambre.
Et la chambre, bah, c'était mon quartier que je considérais être le plus triste de Paris. J'en étais très fier.
C'est-à-dire ?
C'était Nation, Porte Dorée. Il y avait beaucoup de vieux qui votaient RPR et des toxicos.
Et la salle de bain ?
C'était très sympa. Comment ?
Et la salle de bain ?
La salle de bain, c'était plus joyeux, ça. Je pense que ce serait Abbès, peut-être, ouais, un truc comme ça.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Deuxième choix de cette carte blanche musicale, Fantasio. Je vous laisse le soin de nous dire ce qu'on entend.
Ouais, en fait, je ne l'avais jamais entendu avant.
Ce qui est une très très bonne occasion pour le faire, non ?
C'est pas mal. Non, mais je tenais à ce qu'il y ait à un moment, donc Jacques Bérocal et Pauvros, Jean-François, il me semble.
Ouais.
Mais parce qu'ils sont, alors eux, ils sont dans un truc très hybride, c'est-à-dire ils sont arrivés à la fin de l'époque punk, mais ils étaient trop dandys ou trop sophistiqués pour être punk, ou peut-être déjà un peu trop vieux. Mais par contre, ils venaient vaguement du jazz sans être vraiment des jazzman, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils traçaient une tranchée comme ça. Je pense de libération du jugement d'un certain milieu, c'est-à-dire je pense qu'il y avait déjà le jazz en France, ça devenait déjà un truc très protocolaire où il fallait bien faire, surtout en France et comment dire, et
en France.
Dans un truc très presque religieux, en fantasmant sur les Américains, etc. Et je pense qu'ils se demandaient pas trop ce qu'ils faisaient, en fait, comme musique. Je pense qu'ils improvisaient déjà. Mais en fait, je comprends pas. Enfin, ils sont assez incompréhensibles. Mais en tout cas, ils vivent tous les deux. Je les ai vus il y a pas très longtemps. Pour un hommage à Jacques Tolo, qui était un batteur, qu'on a un peu mis sur un siège de batterie pour remplacer des batteurs américains dans des caves à Paris quand il avait 14-15 ans. Et puis, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Donc, eux, ils étaient là à cette occasion. Et c'est des oiseaux rares, quoi. Enfin, voilà. C'est des mecs qui, je pense, auraient beaucoup plus à dire dans des conservatoires que des grands du jazz en France, quoi.
Quand ils sont tous les deux, ils s'appellent Catalogue.
Ouais, ça, c'était les années 70. Après, ils se sont plus supportés tous les deux. Parce que Berocal, je crois, faisait des choses assez étranges après les concerts que Pauvreau ne supportait pas. Enfin bon, c'est un peu deux vieux Pokémon, quoi. Il faudrait les voir côte à côte parce qu'ils ont une splendeur. Pauvreau, il ressemble à une grande algue japonaise, comme ça, déliquescente, et il fait des grands bruits de guitare de baleine morte. Et avec cette gueule de c'est une sorte de forme avec des poils, on ne sait pas trop s'il y a de la chair en dessous. Et Berocal, c'est une sorte de petit dictateur yougoslave.
C'est très bien, parce que s'ils nous écoutent, comme ouais. Ça, on est sûr que c'est des amis désormais.
Ouais, ouais. Que je vais me griller avec eux.
Ou moi, ça, ouais. Dépend, ouais. Ça dépend.
Non, je ne crois pas, je crois que ça va aller. Mais voilà, et c'est plus des personnes où on se dit pas, tiens, souvent on monte la gueule des musiciens quand il y a des programmes, je comprends jamais pourquoi on voit la gueule des mecs. Mais là, pour le coup, ça, eux, on pourrait comprendre, quoi. Ça dit et ça raconte un truc, quoi.
Le titre qu'on a entendu et que vous entendez donc pour la première fois s'appelle Insomnie. Puisqu'on parle d'expérience liée à la musique, est-ce que la nuit ou est-ce que le fait de ne pas dormir pendant longtemps vous a offert ou vous offre aujourd'hui des expériences intéressantes ?
De ne pas dormir pendant longtemps.
Pendant une nuit, par exemple.
Bah, je pense que la drogue, là, on parle souvent de drogue violente en essayant de hiérarchiser laquelle est la plus violente, laquelle fait le plus de mal à la jeunesse. Mais je pense que c'est vraiment la fatigue, la drogue la plus extrême, quoi. Le LSD peut aller se rhabiller, je pense, face à la fatigue. C'est ça que vous disiez, non ?
C'est ça que je disais, je ne sais pas. En tout
est-ce
cas,
que
ce
le fait
sûr,
de
ne
pas
ça...
dormir peut emmener des... Bah oui, parce que de toute façon, dès que la nuit tombe, on n'a pas du tout la même perception. Donc si on est encore en veille pendant la nuit, on perçoit des choses très très fines. Par exemple, les états paranoïaques, ils atteignent toute leur splendeur la nuit, quoi, souvent. Quand on veut bloquer sur quelqu'un et se persuader que cette personne va vous détruire, entre 2 et 5 heures du matin, c'est un truc qui marche super bien. Ouais.
Est-ce que c'est intéressant parfois d'être fatigué pour faire de la musique, d'être un peu mou, d'être un peu faible, ouais. Ou est-ce que c'est juste handicapant ?
Ah non, pas du tout. Non, non, non. Mais oui, mais par contre, il n'y a aucune loi, c'est-à-dire les niveaux de fatigue, ils sont très complexes, c'est-à-dire... Il y a une fatigue qui va donner un truc mou et il y a une fatigue qui va donner une rage nécessaire, quoi, et qui tombe à pic.
Les deux vous intéressent ?
Ah, bien sûr, ouais, ouais.
C'est le troisième choix de votre carte blanche musicale Fantasio. Coup de baguette de qui ?
De Max Roach.
Avec un titre qui s'appelle The Third Eye. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça ?
Parce que je pense qu'on cherche tous notre troisième œil. On passe notre temps à ça. Parce que c'est un petit voyage en soi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, plutôt que d'offrir une chanson ou un truc comme ça, il offre un voyage et des mouvements, quoi. Après, je trouve je pense que Roach ou Coltrane, ils étaient obsédés par chercher par la musique autre chose que la musique. Et je pense que il y a une des versions. Alors, c'est souvent emprunt de légendes qui sont ridicules, parce que la légende est, les légendes, c'est une création pure de, ça n'existe pas, enfin, je pense. Parce que rien n'est légendaire, je pense tout est réel. Mais ce qu'on dit souvent du free jazz, c'est que c'était aussi par étouffement de musiciens qui cachetonnaient aux États-Unis dans la variété de l'époque, donc les années 50, qui étaient souvent des trucs à trois accords, du rhythm and blues, avec des chanteuses de rhythm and blues, qui étaient une bonne variété par rapport à maintenant, mais qui étaient quand même des trucs avec trois accords un peu étouffants pour beaucoup de musiciens de jazz. Et donc, le début du free jazz, ce serait entre autres dans toute une combinaison d'autres circonstances. Mais c'était entre autres échapper à ces... Enfin, ouvrir des portes, quoi, et se défouler pour se dévaudouiser des trois accords, des trucs pour lesquels ils allaient cachetonner, quoi. Donc c'était pour le coup que de l'expérience, c'est-à-dire comment faire avec un instrument pour se libérer de codes emprisonnants, quoi.
À quel moment vous découvrez cette musique-là ?
Ben, le jazz, en fait, pas mal ado, mais pas beaucoup, parce que mes parents n'étaient pas du tout... Ils étaient, je pense qu'il y avait du tango chez moi, parce que ma mère était exilée Argentine. Et du coup, mon père faisait semblant de bien aimer le tango, je pense, pour le garder près de lui. Mais ils écoutaient pas, c'est marrant, ouais, ils écoutaient pas trop de musique. Ma grand-mère, elle aurait voulu être, je crois, chanteuse d'opérette, mais elle était dactylo. Mais elle faisait du piano, du coup, des fois, j'entendais.
Ce qui n'est pas très loin de la batterie, qu'on vient d'entendre.
Ouais, ouais, c'est des percussions, le piano, des percussions, comment dire, de princesse, quoi. Mais, vous me disiez quoi ? C'était
non,
quoi
c'est
le
vous
truc
qui disiez quelque chose.
Oui, oui, donc j'avais un lien avec le jazz que parce que j'écoutais du rockabilly, des trucs des années 30, des années 20. Enfin, il fallait que ce soit ancien pour que ce soit bien, je sais pas pourquoi. Et puis, du coup, ouais, j'écoutais des trucs d'Ellington, tout ça. Par contre, tout ce qui est free, c'est venu assez tard, quoi. C'est venu, je sais pas trop comment. Enfin, c'est en fait que moi, j'ai jamais réussi à faire mon chemin dans le milieu rock, qui est devenu le milieu chanson, le truc des festivals, qui est une sorte de grosse machine qui tourne. J'ai pas fait mon chemin dans le jazz non plus, donc j'ai toujours été dans un truc assez, assez hybride et inconfortable que je défendais. Je trouvais que l'inconfort, c'était le meilleur moyen d'avoir justement des expériences. Et j'ai poussé ça assez loin. Et du coup, je me suis retrouvé dans des... Ce que je savais, c'est que je voulais pas tomber dans un milieu. Ça, c'était une ligne de conduite. Mais des fois, on ne décide pas. Et du coup, je me suis mis à frotter avec des mecs par la force des choses qui faisaient du free, quoi. Ou apparenté, quoi. C'est-à-dire qui improvisaient. Mais après, même ce milieu-là, c'est très protocolarisé.
C'est-à-dire que, par exemple, pour accéder à l'expérience qui va au-delà de la musique...
On dit les musiques improvisées, c'est devenu un style de musique, ce qui est complètement fou, parce qu'on improvise, ça appartient à personne, quoi. Et c'est redevenu une classification musicale, la musique improvisée. Pardon, je vous ai interrompu.
Non, j'ai parlé sous vous. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai continué.
Ouais, le petit tapis par en dessous. Mm-mm.
Mais je peux le refaire.
Tu peux refaire le tapis
audible.
Au-dessus. Comme ça, je serai en sandwich, bien au chaud.
Du coup, j'ose pas la reposer, cette question, parce qu'elle va prendre un tout autre sens.
Ah bon ? Vas-y, laisse-la naviguer. Pardon, laissez-la naviguer.
Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama there, underneath the floor. Brother Death, please mind the store. Old Auntie Death, don't hide your bones. Old Uncle Death, I hear your groans. Oh, Sister Death, how sweet your moans. Oh, Children Deaths, go breathe your breaths. Sobbing breasts will ease your deaths. Pain is gone, tears take the rest. Genius Death, your art is done. Father Death, your body's gone. Lover Death, I'm coming home. Guru Death, your words are true. Teacher Death, I do thank you for inspiring me to sing this blues. Buddha Death, I wake with you. Dharma Death, your mind is new. Sangha Death, we'll work it through. Suffering is what was born. Ignorance made me forlorn. Tearful truths I cannot scorn. Father Breath, once more farewell. Birth you gave was no thing ill. My heart is still, as time will tell. Guru Death, your words are true. Teacher Death, I do thank you for inspiring me to sing this blues. Father Breath, once more farewell. Birth you gave was no thing ill. My heart is still, as time will tell.
Ce ne sont pas les applaudissements du public brestois, mais ceux d'un enregistrement, celui du poème dit par Allen Ginsberg. Et c'est l'un des choix de cette carte blanche musicale, Fantasio. Pourquoi l'avoir voulu, celui-ci ?
Je ne connaissais pas non plus avant.
Moi non plus.
Non, c'est vrai.
Ouais, moi non plus, c'est vrai.
Mais je suis tombé dessus par hasard, mais je voulais trouver des trucs un peu par hasard. Je n'avais pas envie d'arriver avec des trucs que j'aimais déjà. Je trouve ça très glauque. Du coup... là, il y a plein de trucs, c'est-à-dire déjà, il chante comme un enfant, pratiquement, ce qui est assez important. Enfin, c'est-à-dire que souvent, on entend quelqu'un, que souvent, on entend souvent les gens qui disent « je ne sais pas chanter » ou « j'ose pas chanter », parce qu'on met le chant à un niveau très haut. Je ne sais pas si ça date de l'époque de la cour du roi Louis XIV ou je ne sais pas quoi. Enfin, toujours est-il qu'on met le chant à un truc inatteignable, quoi. Alors que tout le monde chante, enfin bref. Donc lui, je trouve qu'on ressent ça, là. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'il est, Ginsberg, en fait. Moi, j'aimais pas du tout les années 70, mais je trouvais pas ça du tout une période réjouissante. Quand j'étais de pied dans la musique, enfin adolescent. Mais là, je trouve qu'on sent qu'il est pas particulièrement chanteur, qu'il dit un truc qu'il ressent. Et puis, il évoque la mort de son père, mais il évoque la mort de tout le monde, en fait, des enfants et tout. Et c'est très doux, voilà.
C'est quelque chose que vous cherchez, ça fait plusieurs fois que vous faites appel à l'enfance et au fait de chanter, par exemple, comme un enfant ou de chanter comme quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas chanter, de rejoindre cet endroit où on ne sait pas. C'est quelque chose que vous pouvez chercher, d'être un endroit où on ne sait pas.
Interdit de répondre, je pense, parce qu'on est tout le temps rappelé à l'ordre par des choses qui sont censées nous dire où on est, quoi. C'est-à-dire, par exemple, on a créé le concept d'époque. Donc on vit telle époque. On est en permanence persuadé qu'on vit dans une époque, alors qu'il n'y a pas d'époque. Enfin, c'est que des constructions mentales qui font une époque. Il n'y a pas, il y a l'histoire des hommes, point. Et alors on passe notre temps à dire, ah ben quand j'avais 15 ans, ah lui à 30 balais, ah il a changé à 45, ah maintenant ça y est il est vieux, ah il fait pas très vieux, ah il fait plus jeune qu'avant, ah il fait... Enfin, c'est-à-dire tout le temps à déterminer, à commenter la vie des autres et à voir, à, comment dire, à... Ouais, à rappeler à l'ordre qu'est-ce qu'on vit, qui on est, comment on vieillit, comment... Et je pense que c'est, enfin, je pense que c'est un devoir qu'on a tous. Enfin, j'ai l'impression d'intemporaliser un peu les choses, de faire redescendre la sauce et de se libérer de ces signes, quoi, permanents, quoi.
Même discours pour la musique, du coup.
Pour tout, pour tout, pour la cuisine aussi, c'est pareil. Et d'ailleurs, on s'autorise à faire des choses. Que quand on s'est débarrassé de tous ces commentaires, parce que les commentaires qu'on dit aux autres, on les a aussi pour nous-mêmes. C'est invisible, quoi, mais c'est permanent.
Mais ça, c'est un long travail. Vous diriez qu'aujourd'hui, vous vous en êtes débarrassé de tous ces commentaires?
Ben non, pas du tout. Sinon, j'aurais plus de boulot.
On va profiter de ce pont de guitare électrique car l'horloge avance, Fantasio, pour commenter ce cinquième choix. Il s'agit, on a commencé par le LSD tout à l'heure, c'est encore c'est le LSD, car il s'agit d'un groupe qui s'appelle La Souris Déglinguée, avec un titre qui s'appelle Jaurès Stalingrad. Pourquoi ce titre-là?
Je viens de me dire à l'instant que c'est marrant, parce que je pense que ça devait faire partie des mecs qui détestaient les Beatles, ce groupe-là.
Donc c'est une bonne raison.
Ben non, mais parce que les Beatles, ils avaient fait ce fameux, c'est comment, vous savez ça, Lucy in the Sky with Diamonds, voilà, qui était aussi les initiales d'LSD. Eux, c'était la Souris Déglinguée. Mais je pense que je me demande si d'un coup ils avaient repris ça des Beatles, mais je crois pas.
Ce qui ne me dit pas pourquoi vous vouliez l'entendre.
Ben, je voulais l'entendre parce que je trouve que c'est... on parlait pas de chansons françaises à l'époque, c'était juste du rock'n'roll. très simple et c'est vraiment le disque de j'ai pas écouté après en fait. C'était leur premier disque, je crois, ça date même de 79, 80. C'était vraiment les prémices du punk en France. Mais ce qui était marrant, c'est que c'était des punks qui allaient les voir, mais ils avaient un truc, ils aimaient le rock'n'roll, donc ils étaient plutôt à écouter, j'imagine, du rock'n'roll des années 50. Ils faisaient pas du punk anglais, quoi. Et puis ils parlaient vraiment de la vie quotidienne parisienne comme jamais j'ai entendu parler. Enfin, il y a vraiment, enfin, pas que ce titre-là, celui-là il est emblématique, mais c'est un peu un disque qui a été un peu enterré, je sais pas pourquoi, et je pense que la playlist de France Inter devrait le mettre plus que Benabar, par exemple.
Vous savez que vous parlez sur France Culture, là ?
Comment ?
Vous savez que vous parlez sur France
Culture,
là ?
Oui, mais je parle de France Inter.
Ah oui. Pas pareil, mais... C'est de bonne guerre.
Et je sais pas pourquoi on va pas déterrer des choses qui parlent de la vie quotidienne comme ce genre de morceaux et que je trouve très très réaliste quoi. Ils parlent de lieux qu'on connaît. Ils parlaient souvent de jeunes filles qui étaient en détresse, qu'il fallait aider. Et pourtant, je crois pas que c'était des grands psychologues ou des grands intellos, mais ils pointaient du doigt l'ambiance. Une ambiance très précise de la situation. Ouais.
Est-ce que c'est une façon de dire que la musique peut rendre de très 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 près l'expérience de la vie ? Parce que, par exemple, là, il est vraiment question, en effet, de l'expérience qui est faite de la ville, qui est faite du quotidien. Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là que vous souhaitiez dire ?
Je pense que ce n'est pas évident du tout, parce que dès que des mots apparaissent, dès que le sens apparaît, la musique devient très souvent secondaire. C'est ce qu'on voit en chanson française, c'est-à-dire qu'ils mettent de la salsa, du reggae, n'importe quoi, tout est au service du texte, quoi. Donc la musique devient une sorte de tapis sonore pour mettre en valeur un texte qui a ce qu'il a à dire, quoi. Et là, on est vachement là-dedans. On va piocher. Il n'y a plus d'histoire de la musique. On va juste piocher des sons qu'on aime bien et on fout un texte par-dessus. Et là, eux, ça avait une histoire. C'est-à-dire, je pense que si on parle d'expérience, c'est aussi que les choses ont une histoire. Et eux, ils avaient une histoire. Il y a un lien de cause à effet entre pourquoi ils jouaient avec ce son-là, pourquoi ils mettaient ces paroles-là. Enfin, tout, rien n'arrivait. Enfin, j'ai l'impression, en l'écoutant, que c'était... que c'est le résultat d'une histoire, quoi, que ça vient pas de nulle part, quoi.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
À cette heure-ci, à peu près chaque jour, nos discussions se suspendent et laissent place au récit d'une émotion. Drôle d'histoire que de demander à quelqu'un de mettre des mots sur des moments qui nous marquent profondément, qui ouvrent des horizons ou qui changent nos façons de faire ou de voir. Cette semaine, c'est Rachel Tanguy qui se prête au jeu. Elle exerce longtemps le métier d'éducatrice spécialisée. Elle est aujourd'hui la coordinatrice pédagogique du centre Sésame dans le Val d'Oise, qui propose à des jeunes gens de 16 à 25 ans de prendre un peu de temps pour réfléchir à leur parcours, à leurs difficultés, à leurs freins et se munir d'outils multiples pour partir ou repartir d'un bon pied. La confiance et l'ouverture, par exemple. Ceci de bien manière différente. En montant un spectacle sur la Grande Guerre 14-18 l'année dernière à l'occasion du centenaire, nous avons rencontré Rachel Tanguy il y a quelques jours. On l'écoute. Cette fois, c'est un souvenir plus récent. On a beaucoup parlé ces derniers jours des réalisations collectives avec les jeunes gens que vous encadrez. Et là, c'est aussi une réalisation collective et c'est une création. Laquelle ?
Alors là, oui, c'est la dernière création collective que nous avons faite à l'espace Sésame avec les jeunes, qui s'appelle Tranchée Vive. C'est donc un spectacle vivant. Et si je veux en parler, c'est parce que pour moi, c'est un moment de bascule et il y avait avant et il y aura après Tranchée Vive. Parce que peut-être cette fois, on a su tirer les enseignements de ce qu'on avait fait précédemment et apporter une dimension supplémentaire. Déjà dans le thème, Tranchée Vive, c'est un spectacle qui parle de la Grande Guerre, donc de la guerre 14-18, et de toutes les guerres en fait. Et déjà, pour nous, le choix du thème est quelque chose d'important, parce que jusque-là, on avait fait des créations avec des ateliers d'écriture, mais on était un peu resté sur un peu l'ego trip. Donc on trouve qu'on a énormément de chance d'être en contact avec cette jeunesse qu'on voit très peu, hein, qu'on n'entend pas, qu'on ne regarde pas. On trouve qu'ils sont beaux, plein d'élan, plein de vitalité. Bon, ils ont aussi des difficultés, donc on veut les montrer. Et donc, on leur avait laissé, sur les créations précédentes, énormément d'espace. Et on parlait d'eux. On faisait des créations qui parlaient d'eux, de cette jeunesse qui a envie de vivre et de trouver sa place, même si ce n'est pas simple. Et en fait, avec Agnès Marietta, qui est l'auteur avec qui on a la chance de travailler, on était restés sur une frustration la dernière fois, en 2011. Agnès Marietta me disait, ils écrivent facilement, volontiers, pour exprimer leur souffrance, leur mal-être, etc. Mais quand je les engage à travailler sur la création, la projection sur un personnage qui n'est pas eux, ils n'y parviennent pas. Et donc on s'était dit là, on va chercher un sujet qui leur est extérieur et on va vraiment être plus ambitieux sur l'écriture théâtrale et l'écriture du personnage. On a choisi la Grande Guerre pour faire partie de la communauté nationale parce que c'était, on était en 2014 et c'est donc le début de les 100 ans. Et on a voulu pour une fois vraiment être dans le thème comme tout le monde, encore une fois avec tout le monde. C'est un sujet qui n'inspirait pas trop les jeunes au départ, quoique, ils nous disaient oui, la guerre, certains nous ont dit même, ouais d'accord, alors, on parlait de la guerre, d'accord, mais on parle de la guerre d'aujourd'hui, parce que dans les quartiers c'est la guerre. Voilà. Ils ramenaient encore à leur vécu et on a réussi à résister là avec Agnès Marietta. Et de se dire qu'il fallait d'abord les nourrir. La guerre, la grande guerre, la guerre 14-18, bien sûr, ils en avaient entendu parler, mais c'était un souvenir scolaire, pas forcément bien ressenti. Et du coup, on a commencé par l'émotionnel, on est parti dans les tranchées avec eux, on a fait le mémorial, les tranchées, et on a pleuré ensemble, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans les tranchées, là, il pleuvait ce jour-là en plus, et qu'on a la chance d'avoir un guide qui nous parle de tous ces morts, qui les incarne. Voilà, je reviens à mon entretien de lundi. Voilà, les jeunes, c'était plus la vieille guerre avec plein de morts, mais voilà, c'est des vieux. C'était des jeunes comme eux, qui avaient parfois 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont morts là, dans ces tranchées. Donc on a commencé d'abord comme ça, pour leur permettre de comprendre que derrière ces mots, il y avait des réalités historiques. Ensuite, on s'est dit aussi qu'on ne pouvait pas s'improviser auteur. Ce serait même obscène, auteur sur la Grande Guerre, quand on ne l'a pas vécu, avec la force que ça implique, sans les nourrir. Et donc on a été lire des lettres de Poilu, on a lu Sandrard, on a lu des grands auteurs qui ont écrit sur la Grande Guerre, et puis des auteurs de théâtre contemporains aussi, qui parlaient d'autres guerres. Et là, les jeunes nous ont bluffés aussi par leur réceptivité, toute l'émotivité qu'ils ont ressentie sur la lecture de ces textes-là. Et ensuite, dans un troisième temps, ils se sont mis à écrire. Ils ont d'abord écrit sur la Grande Guerre, la guerre 14-18, et puis ensuite, Agnès Marietta leur a demandé d'inventer un personnage, il fallait qu'il fasse partie d'une guerre, mais ils choisissaient. Alors on a eu des personnages qui avaient vécu la guerre d'Irak, des personnages qui avaient vécu la guerre 14-18, d'autres qui avaient vécu la guerre 39-45, d'autres celle du Rwanda, du Congo. Il se trouve que dans le groupe, on avait un jeune homme qui avait vécu la guerre au Congo et qui donc, lui, en parlait. Alors pour le coup, c'était très habité. Et ensuite, on a créé, enfin, ça c'était un peu le travail d'Agnès, de créer une dramaturgie, un spectacle d'une heure à partir de tous ces écrits et de tous ces personnages. Donc, Tranchées vives, c'est parle de la Grande Guerre et des guerres en général. Et je trouve aussi qu'il est abouti, celui-là, parce que le fait d'avoir choisi ce thème, qui est en résonance avec la société plus large, nous a permis de jouer dans des salles ou devant des publics par opportunité, parce qu'on parlait de la Grande Guerre. Et je trouve vraiment... Bon, on a joué au Théâtre 95, qui est un théâtre sur Cergy, qui est notre partenaire privilégié, devant une salle comble, je pense, très émue. On a été, du coup, sollicité par une mairie, celle du lieu d'habitation, enfin, du lieu de Sésame, à Irani, qui nous a demandé de le rejouer. Et puis, finalement, on a eu aussi une proposition de l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise, qui, un dimanche après-midi, proposait une conférence, donc à des gens lettrés, une conférence sur les productions artistiques pendant la Grande Guerre. Et ils se sont dit, tiens, on va, pour introduire production artistique Grande Guerre, ils nous ont laissé un espace de lecture. On n'a pas joué le spectacle. Et C'est une personne qui nous connaît, hein, qui nous a introduits, et je suis persuadée que les gens qui nous ont accueillis, le public qui était venu voir cette conférence, n'étaient pas convaincus du tout. Et bon, ils sont très polis, donc ils ont évidemment, ils nous ont laissé nous exprimer. Et, mais ils se sont dit, oh, ils n'étaient pas très enthousiastes. Hein. Et les jeunes les ont complètement bluffés. C'est-à-dire que c'était tellement beau, tellement habité et incarné, leur manière de dire le texte qu'ils avaient écrit ou le texte qu'ils avaient récupéré chez les grands auteurs, que les gens, alors les trois quarts de la salle pleuraient et les applaudissements n'arrêtaient plus. Et là, je me dis que c'est abouti parce que quand on fait des spectacles avec des jeunes gens comme ça, on arrive à remplir la salle de théâtre, mais on la remplit aussi avec notre réseau. Et notre réseau, ce sont des amis, forcément un peu compatissants. « Oh, ces jeunes, c'est bien ce qu'ils font, ils font du théâtre, c'est bien, ils ont beaucoup travaillé. » Alors, les applaudissements, il faut les prendre, hein, ce sont des applaudissements chaleureux, mais on se pose toujours la question de savoir si derrière, on reste pas, il n'y a pas un peu de condescendance. Voilà. Et là, on avait un vrai public qui n'était pas venu pour ça, qui était venu pour une conférence, qui était poli, donc qui a accepté le quart d'heure d'attention qu'on leur a demandé. Et les jeunes les ont complètement accrochés et attrapés, mais complètement. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, avec ces jeunes gens, ces jeunes comédiens, je me suis dit, on les a attrapés. Et là, c'est une vraie reconnaissance. Et ils ont été très sensibles, hein, les jeunes, à ça. C'est une vraie reconnaissance. Donc on est passé vraiment, peut-être d'un état de relégation, à une vraie présence et une vraie lisibilité. Et ça, c'est un moment très, très beau et qui restera... Ouais, c'est un vrai moment de bascule.
Tu te retrouveras face au grand combat et tu ne pourras pas résister à la chaleur qui te rendra fou. Fou, plus que fou. C'est dans ces combats que le monstre te fera du mal et qu'à cause de lui, c'est la fin de l'humanité. Pourquoi tu ne dis pas ça à la guerre d'une voix forte comme une trompette avec le mal que tu as fait? C'est à toi de subir le mal. C'est ton tour de subir les grands combats. Monstre que tu es, imbécile, pourquoi tu dis pas ça à la guerre?
The last kind word I hear my daddy say, Lord, the last kind word I hear my daddy say. If I die, if I die in the German war, I want to send my body, send it my mother-in-law. If I get killed, if I get killed, please don't bury my soul. If I just leave me out, let the brother see me go. When you see me coming, look across the Richmond field. If I don't bring you flowers, I'll bring you both in you. I went to the depot, I looked up at the sun, cried, some train don't come, I'll be some walking done. My mama told me, just before she died, Lord, said that daughter, don't you be so wise. The Mississippi River, you know it's even wide. I can't stand right here, be my babe from the other side. What you do to me, baby, it never gets out of me.
Fantasio, c'est le dernier choix de cette carte blanche musicale. Last Kind Words de Gishy Willey. Pourquoi ?
Alors, bah, c'est très beau.
Bah ouais, mais je voyais pas bien quoi répondre d'autre, en effet, ouais.
Non, mais bah, c'est très très doux, très beau, et puis surtout qu'il n'y a pas de couplet, de refrain. C'est ça que je trouve beau. C'est-à-dire, c'est un petit, ça peut, elle peut tourner 800 ans celle-là. Et nous accompagner jusqu'à la mort. Mais souvent, je me dis, enfin, c'est pas un truc que je me dis souvent, mais j'avais écrit juste une phrase une fois où je me disais que toute la vie, tout ce qui est donc l'accumulation de situations dans la vie servait que, excusez-moi.
On peut aussi
faire monter des trucs. Non, mais parce que je me disais en fait que toute la vie servait à apprendre à sourire avant de mourir. Voilà.
Je vous remercie infiniment d'avoir signé pour nous cette sélection musicale. Je suis très heureuse qu'on ait entendu cette musique tous ensemble. Je signale 3 disques à venir : La vie pas chère, Indus Bandits et Mobile Social Service. Merci beaucoup, Fantasio.
Merci beaucoup.
Et donc, merci beaucoup au public brestois qui s'est joint à nous cet après-midi et qui a été d'un silence absolument incroyable au Petit Théâtre du Quartz. Merci à toute l'équipe du festival Longueur d'Onde pour leur accueil. Les nouvelles vagues près de la mer, c'est tout de suite vraiment extraordinairement sympathique. Vous pouvez réécouter toute cette semaine et celle qui la précède sur le site internet franceculture.fr. Nous y postons les bibliographies, les références musicales et tout plein d'autres surprises sur le site. Nous pouvons nous écrire ainsi que via Facebook ou Twitter. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée exceptionnellement aujourd'hui par Véronique Villa avec à la technique tout un tas de jeunes hommes, Bernard Quentin, Bastien Varigo, Tanguy Lecorneau et Dominique Allard pour la production. Pour nous, à lundi. Thank you.